Marcof le Malouin, deuxième partie, chapitre 15. La chouannerie. Ainsi, nous voici dans la baie des Trépassés, dit Jahoua à voix basse et en répondant à ses pensées secrètes. Le fermier regardait autour de lui avec une sorte d'attention mêlée de craintes superstitieuses.
Oui, répondit Marcof, mais ne t'effraie pas, Jahoua. Nous allons accomplir une bonne action. Et s'il est vrai que les âmes des morts errent autour de notre canot, aucune ne doit chercher à nous nuire.
Oh, fit le fermier, je n'ai peur ni des morts ni des vivants quand il s'agit d'Yvonne.
Jahoua, interrompit brusquement Keinec, je crois que nous devons nous abstenir tous deux de parler de notre amour.
C'est vrai, répondit Jahoua, tu as raison. Ne songeons qu'à arracher la jeune fille à ceux qui l'ont enlevée.
Laisse aller, ordonna Marcof.
Keinec cessa aussitôt de ramer, releva ses avirons, et le canot, poussé seulement par l'impulsion de sa propre vitesse, s'approcha rapidement de la grève. La quille laboura le sable. Sur un geste de Marcof, Keinec s'élança hors de l'embarcation et sauta dans la mer, qui lui monta jusqu'à la ceinture. Marcof et Jahoua demeurèrent dans le canot. Keinec s'avança vers la terre ferme qu'il atteignit en quelques pas. Là, il sauta sur un quartier de roc isolé et examina attentivement la plage étroite qui lui faisait face. Aucun être humain ne se présenta à ses regards investigateurs. Marchant avec précaution, il alla jusqu'aux roches énormes qui s'élevaient fièrement vers le ciel. Tout était désert autour de lui. Keinec, connaissant les habitudes mystérieuses et étranges du berger sorcier, pensa que Carfor était caché dans quelque anfractuosité qui le dérobait à la vue. Alors il s'arrêta de nouveau et appela plusieurs fois à voix basse. Personne ne lui répondit. Enfin, convaincu que celui qu'il cherchait n'était pas dans la baie ou qu'il refusait de se montrer, il retourna vers l'endroit où il avait laissé ses compagnons.
« Eh bien ?» demanda Marcof en le voyant près de lui. « Rien !» répondit Keinec. « Carfor est absent, ou bien il nous a vus. »«
C'est peu probable.
Que faut-il faire ?»«
Le chercher d'abord, et ensuite l'attendre, si réellement il est absent. »
Et Marcof, se levant vivement, sauta également à la mer.
« Garde le canot, » dit-il à Jahoua, qui avait fait un mouvement pour le suivre. Le fermier s'arrêta et garda sa position au fond de la barque.
Keinec et Marcof gagnèrent vivement la grotte. Le jeune homme avait pris, en passant près du brasier à moitié éteint, une branche de résine qui brûlait encore. Il pénétra hardiment dans la demeure de Carfor. La grotte était vide. Ces deux hommes se regardèrent, se consultant mutuellement des yeux.
« Il n'est pas rentré, » dit Keinec. « Tu le vois. »
« Peut-être a-t-il pris la fuite, » répondit Marcof.
« Il est sans doute dans les genêts. »«
Ou en mer.
Il n'a pas d'embarcation. »«
La tienne n'était plus à peine marque. »«
C'est vrai. » »«
Alors il ne serait pas revenu ?»«
Tu penses donc qu'il a conduit Yvonne loin d'ici ?»«
Je pense qu'il aura accompagné celui qui enlevait la pauvre enfant. Et c'est plus que probable pour détourner les soupçons. » Il serait ici sans cela.
Crois-tu qu'il y revienne?
Sans aucun doute.
Il faut donc attendre.
Oui.
Attendre, fit Keinec en frappant la terre avec impatience. Attendre, Yvonne a besoin de nous.
Si nous n'attendons pas, de quel côté dirigerons-nous nos recherches? Où sont allés ceux qui l'ont enlevé? Ont-ils suivi les côtes? Ont-ils abordé dans les îles? Ont-ils rejoint quelques croiseurs anglais?
« Mais que faire alors ?
Restez ici, Carfor reviendra, te dis-je. »«
Et nous le forcerons à parler ?»«
J'en fais mon affaire, » répondit Marcof. « Va retrouver Jahoua. Cherchez tous deux un abri pour le canot, afin qu'on ne puisse le voir de la haute mer, et tenez-vous à l'ombre des rochers. »«
Et toi ? » ?»«
Si Carfor, contre mon attente, nous avait aperçus et s'était sauvé dans les genêts, je vais le savoir. » Mais va, laisse-moi agir à ma guise.
« J'obéis, » dit Keinec en s'éloignant. Jahoua, impatient, se tenait à genoux dans le canot, sa carabine à la main, prête à sauter à terre. Keinec lui transmit les ordres de Marcof. Tous deux conduisirent l'embarcation derrière un énorme bloc de rochers à moitié enfoui dans l'océan. Le canot disparaissait complètement sous la masse de granit. Keinec l'amarra solidement.
« Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Jahoua.
« Attendre Marcof, » répondit Keinec, « et veiller attentivement. « Eh bien, et l'œil sur la mer, moi je me charge de la grève.
« Reste à l'ombre, que l'on ne puisse nous apercevoir d'aucun côté. »
Et les deux jeunes gens, ne s'adressant plus la parole, tant leur attention était absorbée par leurs propres pensées et par l'espérance de découvrir l'arrivée de Carfor, demeurèrent immobiles, les regards de l'un fixés sur l'océan, ceux de l'autre sur la plage et sur les falaises. Pendant ce temps, Marcof avait quitté la grotte et s'était avancé vers ce sentier escarpé par lequel Raphaël et Diego étaient jadis descendus dans la baie. Marcof, pour ne pas être embarrassé dans ses mouvements, déposa sa carabine contre le rocher, affermit les pistolets passés dans sa ceinture et consolida par un double tour la petite chaîne qui, suivant son habitude, suspendait sa hache à son poignet droit. Posant son pied dans les crevasses, s'accrochant aux aspérités des falaises, cédant, enfin, de tout ce qu'il rencontrait, il entreprit l'ascension périlleuse et gagna la crête des rochers avec une merveilleuse agilité. Une fois sur les falaises, il se jeta dans les genêts qui s'élevaient à quelque distance. Puis il écouta, avec une profonde et scrupuleuse attention. Ce bruit vague qui règne dans la solitude arriva seul jusqu'à lui. Alors, portant ses deux mains à sa bouche pour mieux conduire le son, il imita le cri de la chouette. Trois fois, à intervalles égaux, il répéta le même cri. Après quelques secondes de silence, un sifflement aigu et cadencé se fit entendre au loin. Un rayon de joie illumina la figure de Marcof. 10 minutes après, le même sifflement se fit encore entendre, mais beaucoup plus rapproché. Marcof imita de nouveau le cri de l'oiseau de nuit et s'avança doucement dans les genêts en les fouillant du regard. Bientôt, il vit les genêts s'agiter faiblement. Puis, l'extrémité du canon d'un fusil écartait les plantes. Marcof fit un pas en avant et se trouva face à face avec un homme de haute taille, portant le costume breton et dont le large chapeau était constellé de médailles de sainteté et orné d'une petite cocarde noire. Un étroit carré d'étoffe blanche, sur laquelle était gravée l'image du Sacré-Cœur, se distinguait du côté gauche de sa veste. Quoique vêtu en simple paysan, cet homme avait dans toute sa personne un véritable cachet d'élégance. Sa figure mâle et belle inspirait l'intérêt et la confiance. Une large cicatrice, dont la teinte annonçait une blessure récemment fermée, partageait son front élevé et donnait à sa figure un aspect guerrier plein de charme. En apercevant Marcof, il lui tendit la main.
« Je ne vous croyais pas de retour ?» lui dit-il. « Je suis arrivé hier, » répondit le marin. « Le pays de Vannes et celui de Tréguier sont en feu. »«
Je le sais. Vous avez vu la rouerie ?»
Il m'a fait dire par un ami de Saint-Ali qu'il ne pouvait se rendre à Paimbœuf.
« Et l'ocrenant ?»« On dit que le marquis est mort, » répondit Marcof.
« Tué, peut-être ?»«
Non, mort dans son lit. »
« Un malheur pour nous, Marcof. »«
Un véritable malheur, monsieur le comte. »«
On s'est battu à Fouesnant ?» reprit l'inconnu après quelques minutes.
« Oui. »
« Aujourd'hui, n'est-ce pas ?»«
Ce soir même. »«
Vous y étiez ?»«
J'ai donné un coup de main aux gars. »«
Qui les attaquait ?»«
Les gendarmes. »«
À propos du recteur ?»«
Oui. »«
Je leur ai parié. »« L'arrêté du département nous servira à merveille. » On dirait qu'ils prennent ta tâche de tout faire pour seconder nos plans et nous envoyer des soldats. À l'heure où je vous parle, 10 communes sont déjà soulevées.
Combien avez-vous d'hommes ici ?
200, à peine.
C'est peu.
Bois Hardy doit m'en amener autant ce soir, ou demain au plus tard.
Vous occupez les genêts ?
Tous. Nous avons déjà attaqué 2 convois destinés au bataillon qui occupe Brest.
Je ne savais pas que le premier coup de feu ait été tiré encore dans cette partie de la Cornouaille,
dit Marcof avec un peu d'étonnement. Il l'a été avant-hier, et vous arrivez au bon moment, car maintenant la guerre va commencer dans toute la Bretagne.
Je ne puis demeurer auprès de vous.
Vous reprenez la mer ?
Je n'en sais rien encore.
Aviez-vous quelque chose d'important à me communiquer cette nuit ?
Oui.
Qu'est-ce donc ?
Jean Chouan était à Fouesnant ce soir même.
Que venait-il faire ?
Engager les gars à quitter le village.
Bien, vous a-t-il chargé de quelque chose pour moi ?
Non.
Et que voulez-vous ensuite, mon cher Marcof ?
Je vais vous le dire, monsieur le comte.
Et Marcof raconta brièvement l'histoire de l'enlèvement d'Yvonne.
Tout me porte à croire, ajouta-t-il en terminant, que le comte de Fougueray et le chevalier de Tessy sont les 2 hommes qui, vous le savez, se sont entretenus avec Carfor. L'un d'eux serait également l'auteur du rapt dont je viens de vous parler. Or, je crois important de vous emparer de ces 2 hommes.
Sans aucun doute.
Je vais m'efforcer d'atteindre Carfor, et si je l'ai entre mes mains, je saurai le faire parler. Pendant ce temps, faites surveiller les côtes et les campagnes. Durant quelques jours, arrêtez tous ceux que vous ne connaîtrez pas pour faire partie des nôtres.
Je le ferai.
Gardez-les jusqu'à ce que nous nous soyons revus.
Très bien.
Quand voulez-vous que nous nous rencontrions ?
Le plus tôt possible.
Marcof réfléchit. Après-demain, à la même heure, dans la forêt de Plogastel, près de l'abbaye, dit-il.
J'y serai.
Faites-y conduire les prisonniers, afin que nous puissions les interroger ensemble.
C'est entendu.
Adieu donc, monsieur le comte.
Adieu et bonne chance, mon cher Marcof.
Après-demain, Bois Hardy sera avec nous.
Et les 2 hommes, échangeant un salut affectueux, se séparèrent.
L'inconnu, pour s'enfoncer dans les genêts, Marcof pour revenir à la falaise.
Quelques minutes après, Marcof était de retour auprès de ses 2 compagnons.
« Eh bien ? » demanda-t-il vivement.
« Rien encore, » répondit Jahoua.
« Attendons. »«
Mais le jour va venir, » s'écria Keinec.
« Nous perdons un temps précieux. »«
Keinec a raison, » ajouta Jahoua.
« Ne craignez rien, mes gars, » répondit Marcof en les calmant du geste. « Les côtes et les campagnes sont gardées. » Si les ravisseurs d'Yvonne nous échappent à nous, ils n'échapperont pas à d'autres.
À qui donc ? Fit Jahoua avec étonnement.
À des amis à moi, que je viens de prévenir.
Des amis ?
Oui, sans doute, je m'expliquerai plus tard.
Pourquoi pas maintenant ?
Dit Keinec.
Parce que je ne suis pas assez sûr de vous deux.
Je ne comprends pas vos paroles, Marcof.
Tu ne comprends pas, mon brave fermier, ce qui se passe autour de toi. « Écoutez-moi tous deux, et si vos réponses sont franches, nous nous entendrons vite. Vous avez vu ce soir ce qui a eu lieu à Fouesnant ?»«
Oui. »«
Eh bien, 10 communes se sont soulevées également à propos de leur recteur. Les paysans, traqués, se sont réfugiés dans les bois. Le pays de Vannes et celui de Tréguier sont en feu à l'heure qu'il est. Par toute la Bretagne, la guerre éclate pour soutenir les droits du roi. » et ne reconnaître que sa puissance. Des chefs habiles et hardis conduisent les bandes, qui, d'attaquer qu'elles étaient, attaquent à leur tour. Avant 6 mois, peut-être, nous lutterons ouvertement contre les soldats bleus qui emprisonnent nos prêtres, détruisent nos moissons et incendient nos fermes. Dites-moi maintenant, après avoir ramené Yvonne à son père, vous voudrez me suivre encore ? Et combattre pour le roi et la religion ?
Je suis bon breton, moi, répondit Jahoua. Je n'abandonnerai pas les gars et j'irai avec eux.
Moi aussi, ajouta Keinec.
C'est bien, fit Marcof. Quoi qu'il arrive, je vous conduirai après-demain à la forêt de Plogastel.
Nous y trouverons monsieur de la Bourdonnaie. »
Monsieur de la Bourdonnaie ? S'écria Jahoua avec étonnement et respect.
Lui-même, je viens de le voir, et c'est lui qui arrêtera ceux que nous cherchons s'ils parviennent à nous échapper.
Voici le jour, dit Keinec en désignant l'horizon.
Et une barque qui double le promontoire, ajouta Marcof.
C'est Carfor, sans doute, dit Jahoua.
Est-ce ton canot, Keinec ?
Non.
Alors ce n'est pas le berger.
« Attends, Marcof !»
fit brusquement le jeune homme en arrêtant le marin par le bras. « Voici une seconde barque, et cette fois c'est la mienne. »«
Allons, tout va bien !»
répondit Marcof.
« Que devons-nous faire ?»«
Gagner la grotte et attendre. Nous le prendrons dans son terrier !» dit vivement Jahoua.
« Oh, nous avons le temps, mon gars.
Carfor a la marée contre lui. Il n'abordera pas avant 2 heures d'ici. »
« Demeurons dans notre embarcation. Nous sommes cachés par le rocher. Dès qu'il sera à terre, nous pourrons lui couper la retraite. »«
Bien pensé, Keinec, et nous ferons comme tu le dis, » répondit Marcof. Les 3 hommes, effectivement, entrèrent dans leur canot et attendirent. À l'horizon, à la lueur des premiers rayons du jour naissant, on voyait un point noir se détacher sur les vagues. Mais il fallait l'œil exercé d'un marin pour reconnaître une barque. Le moment où Keinec avait signalé l'arrivée du canot monté par Carfor, du moins il le supposait, ce moment, disons-nous, correspondait à peu près à celui de l'entrée de Raphaël et de Diego dans l'abbaye de Plogastel. Car nos lecteurs se sont aperçus sans doute que pour revenir à Marcof et à ses 2 compagnons, nous les avions fait rétrograder de 24 heures. Keinec ne s'était pas trompé dans la supposition qu'il avait faite. C'était effectivement Yann Carfor, qui, après avoir quitté le comte de Fougeray et le chevalier de Tessy, près d'Audierne, avait remis à la voile pour regagner la baie des Trépassés. Après avoir doublé le promontoire, le vent changeant brusquement de direction et venant de terre, le sorcier s'était vu contraint de carguer sa voile et de prendre les avirons. Aussi avançait-il lentement. Et Marcof n'avait-il pas eu tort en annonçant à Jahoua que celui qu'ils attendaient tous 3 ne toucherait pas la terre avant 2 heures écoulées. Carfor était seul dans le canot. Ramant avec nonchalance, il repassait dans sa tête les événements de la nuit dernière. De temps en temps, il laissait glisser les avirons le long du bordage de la barque et portait la main à sa ceinture, à laquelle était attachée la bourse que lui avait donnée le chevalier. Il l'ouvrait, contemplait l'or d'un œil étincelant, y plongeait ses doigts avides du contact des louis, et un sourire de joie illuminait sa physionomie sinistre. Puis il reprenait les rames et gouvernait vers le fond de la baie. « 100 louis » murmurait-il. « 100 louis d'abord, sans compter ce que j'aurai encore demain. Ah, si l'on pouvait acheter des douleurs avec de l'or, comme je viderais cette bourse pour songer à ma vengeance. Que je les hais, ces nobles bandits! Quand donc pourrais-je frapper du pied leurs cadavres sanglants? Billot Varenne et Carrier me disent d'attendre. Attendre! Et qui sait si je vivrai assez pour voir luire ce jour tant souhaité? Keinec a-t-il suivi mes instructions? Reprit-il après quelques minutes de silence. Aura-t-il tué Jahoua? Oh, si cela est, Keinec m'appartiendra tout à fait. Le sang qu'il aura versé sera le lien qui l'unira à moi. Et alors je le ferai agir. Il me servira à lui. Il frappera pour moi. La quille du canot s'enfonçant dans le sable fin qui couvrait les bas-fonds de la baie, vint, en rendant l'embarcation stationnaire, interrompre le cours des pensées du sorcier breton. Il abordait. Marcof s'avança doucement dans l'ombre, guettant l'instant favorable pour se placer entre Carfor et la mer, tandis que ses 2 compagnons gagnaient chacun l'un des sentiers des falaises afin de couper tout moyen de fuite à celui qu'il supposait avec raison avoir contribué à l'enlèvement d'Yvonne. Chapitre 16. Les tortures. Carfor sauta à terre et amarra soigneusement le canot à un gros piquet enfoncé sur la plage. « Je le ramènerai cette nuit à Penmark, » murmura-t-il, « et je dirai à Keinec que j'en ai eu besoin. Le gars ne se doutera de rien. » En parlant ainsi, Carfor se dirigeait vers la grotte, lorsqu'il s'arrêta tout à coup. La branche de résine dont Keinec s'était servi pour pénétrer dans la grotte avec Marcof et que le jeune marin avait jetée à terre sans prendre soin de la remettre dans le brasier, venait de frapper les regards de Carfor. Son intelligence, toujours prompte à soupçonner, lui dit qu'il fallait que quelqu'un fût venu pour que cette branche aux trois quarts brûlée fût éloignée de plus de 100 pas du feu qu'il avait laissé allumer toute la nuit pour faire croire à sa présence. « Qui donc est venu ?» se demanda-t-il. « Le comte et le chevalier, Billot, Varenne et Keinec sont les seuls qui eussent osé, à 10 lieues à la ronde, s'aventurer la nuit dans la baie des Trépassés. Or, je quitte à l'instant le comte et le chevalier. Billot, Varenne est à Brest, Keinec n'avait pas son canot. Qui donc serait-ce ?» Carfor réfléchit longuement, puis il se frappa le front et pâlit. « Marcof ! » murmura-t-il. « Marcof, peut-être ?»«
Tu ne te trompes pas !» répondit une voix rude.
Carfor se retourna vivement et tressaillit. Marcof était debout entre le berger et le canot.
« Que me veux-tu ? » demanda Carfor.
« Te parler ? » ?»«
À moi ? » ?»«
En personne. » »«
Pourquoi ? » ?»«
Tu le sauras. » »«
Je ne veux pas t'entendre. » »«
Tu n'en es pas le maître. » »«
Tu as donc résolu de me contraindre ?»
« Certainement.
Mais assez !»
Et Marcof se retournant, « Venez » dit-il. Jahoua et Keinec parurent. En voyant Keinec, la physionomie de Carfor exprima une joie réelle. « Ah !» pensa le berger, « Keinec est ici, il est fort, tout n'est pas perdu. » Et s'adressant à Marcof, « Encore une fois, » dit-il, « que me veux-tu ? »
Entrons dans la grotte, tu le sauras. »
Carfor obéit et marcha vers sa demeure dans laquelle il pénétra. Marcof et ses deux compagnons l'y suivirent pas à pas. Marcof prit pour siège un quartier de rocher. Keinec et Jahoua se tinrent debout à l'entrée de la grotte. Carfor promenait autour de lui un regard sombre et résolu. Il attendait que Marcof lui adressât la parole.
« D'où viens-tu ? »
lui dit le marin.
« Que t'importe ? » ?»«
Je veux le savoir. » »«
De quel droit m'interroges-tu ? » ?»«
Du droit qu'il me plaît de prendre, et, si tu le veux, du droit du plus fort. » »«
Je ne te comprends pas. » »«
C'est ton dernier mot ? » ?»«
Oui. » »«
Réfléchis. » »«
Inutile. » »«
Très bien, » dit froidement Marcof.
« Carfor ! » s'écria Keinec en s'avançant. « Il faut que tu parles. »
« Qu'as-tu fait d'Yvonne ?» demanda Jahoua en même temps. Le jour qui naissait à peine n'avait pas jusqu'alors permis à Carfor de distinguer les traits du second compagnon de Marcof. Terrifié par la subite apparition du marin qu'il redoutait et savait son ennemi, le berger ne s'était remis de son trouble qu'en reconnaissant Keinec, dont il espérait un secours. Mais, en voyant tout à coup Jahoua, qu'il croyait mort, car il n'avait pas douté un seul instant que Keinec ne l'eût tué. En voyant le fermier, disons-nous, ses yeux exprimèrent malgré lui ce qui se passait dans son âme. Marcof sourit ironiquement.
« Tu ne t'attendais pas à les voir ensemble, n'est-ce pas ? »
dit-il. Carfor garda le silence. Alors Marcof, s'adressant aux deux jeunes gens, « Laissez-moi faire, » continua-t-il, « et gardez l'entrée de la grotte. Je vous l'ordonne. » Keinec et Jahoua se reculèrent, tandis que Marcof, se tournant vers Carfor, reprenait.
« Encore une fois, veux-tu répondre aux questions que je vais t'adresser ?»«
Non. »« Tonnerre, tu parleras cependant. » Marcof prit un bout de corde qui gisait à terre et sans ajouter un seul mot, il le coupa en deux à l'aide d'un poignard qu'il tira de sa ceinture. Cela fait, il répandit un peu de poudre sur un rocher, et roula dedans le bout de la corde qu'il convertit ainsi en mèche. « Pour la troisième fois, » fit-il encore en s'adressant à Carfor, « veux-tu répondre ?» Le berger détourna la tête. « Garrottez-le !» ordonna le marin. Jahoua et Keinec se précipitèrent sur Carfor. Le misérable voulut opposer de la résistance, mais, terrassé en une seconde, il fut bientôt mis dans l'impossibilité de faire un seul mouvement. Les deux hommes lui tinrent solidement les jambes et les bras. « Attachez-lui les mains !» continua Marcof impassible. « Seulement, laissez-lui les pouces libres !»« Là !» continua-t-il en voyant ses ordres exécutés. « Maintenant, Keinec, prends ce bout de mèche et place-le entre ses pouces. Mais serre vigoureusement que la corde entre bien dans les chairs. » Keinec s'empressa d'obéir. Lorsque les deux pouces de Carfor furent liés ensemble, de façon que la mèche se trouva prise entre eux et passa de quelques lignes, Marcof tira un briquet de sa poche, fit du feu et approcha la madou allumée du bout de corde. Le feu se communiqua rapidement à la poudre dont la mèche était saupoudrée. « Attendons un peu maintenant, » reprit Marcof d'une voix parfaitement calme. « Le drôle va parler tout à l'heure, et il sera aussi bavard que nous le voudrons. » Carfor sourit avec incrédulité. « De plus solide que toi, on demandait grâce à ce jeu-là, » continua le marin en reprenant sa place. « Demande à Keinec. Il connaît l'invention pour l'avoir vu pratiquer en Amérique parmi les peuplades sauvages. » Tu souris à présent, mais quand les chairs commenceront à griller lentement, tu parleras, et même tu crieras. » Keinec et Jahoua frémissaient d'impatience. Marcof les calma du geste. Les deux jeunes gens, se rappelant le serment d'obéissance qu'ils avaient fait à leur compagnon, n'osaient exprimer toutes leurs pensées. Mais ils trouvaient la torture trop longue, car tous deux songeaient à Yvonne, et à ce que la pauvre enfant pouvait être devenue. Pendant quelques minutes, le plus profond silence régna dans la grotte. Puis Carfor ne put retenir un soupir. « Cela commence !» fit observer Marcof. « Je savais bien que le procédé était infaillible. » En effet, l'extrémité de la mèche s'était consumée et la corde commençait à brûler, plus lentement encore, les pouces du berger. Suivant l'expression de Marcof, la chair grillait sous l'action du feu. La peau se noircit et la chair vive se trouva en contact avec la mèche enflammée. La souffrance devait être horrible. La figure de Carfor, pâle comme un linceul, s'empourprait par moments, et les veines de son cou et de son front se gonflaient à faire croire qu'elles allaient éclater. Une sueur abondante perlait à la racine des cheveux et inonda bientôt son visage. Sa bouche se crispa, ses membres se roidirent. Marcof contemplait d'un œil froid les progrès de la douleur qui commençait à terrasser le sauvage breton. « Veux-tu parler ? » dit-il. Carfor le regarda avec des yeux ardents de haine. « Non ! » répondit-il. « À ton aise, nous ne sommes pas pressés. »«
Si je le tuais ! »
s'écria Keinec.
« Silence !»
fit Marcof en écartant le jeune homme qui s'était avancé. La douleur devint tellement vive que Carfor ne put étouffer un cri.
« Au secours » cria-t-il. « À moi ! À l'aide !
Crois-tu donc que quelqu'un soit ici pour t'entendre ? Tes amis les révolutionnaires ne sont pas là. »«
À moi ! Les âmes des trépassés !»
hurla le berger. Keinec et Jahoua tressaillirent. Marcof remarqua le mouvement. « Nous ne croyons pas à tes jongleries, » se hâta-t-il de dire. « Inutile de jouer aux sorciers, entends-tu ? Tes contes sont bons pour effrayer les enfants et les femmes, mais nous sommes ici trois hommes qui ne craignons rien, n'est-ce pas, mes gars ? »
« Dis-nous où est Yvonne ?»
fit Keinec en secouant le berger par le bras.
« Laisse-le, il te le dira tout à l'heure. » répondit Marcof.
Carfor, en proie à la douleur, se roulait par terre dans des convulsions effrayantes.
« Il ne parlera pas !» fit Jahoua.
« Bah !»
continua Marcof en haussant les épaules. J'ai vu des Indiens qui n'avaient la langue déliée qu'à la troisième mèche, et j'ai de quoi en faire deux autres.
Déliez-moi! Déliez-moi! S'écria Carfor.
Tu parleras?
Oui.
Tu diras la vérité?
Oui.
Détache la mèche, Jahoua. Le fermier trancha les liens d'un coup de couteau. Carfor poussa un soupir et s'évanouit. Va chercher de l'eau, Kennec, continua froidement Marcof. Mais avant que le jeune homme ne fût revenu, le berger avait rouvert les yeux. Marcof, alors, procéda à l'interrogatoire.
Tu sais qu'Yvonne a disparu? Dit-il à Carfor.
Oui, répondit le berger.
On l'a enlevée?
Oui.
Tu as aidé à l'enlèvement?
Carfor hésita.
La seconde mèche, fit Marcof.
Je dirai tout, s'écria Carfor, dont les cheveux se hérissèrent à la pensée d'une torture nouvelle.
Réfléchis avant de répondre. Ne dis que la vérité, ou tu mourras comme un chien que tu es.
Je dirai ce que je sais, je te le jure.
Réponds. Tu as aidé à l'enlèvement?
Oui.
Tu n'étais pas seul?
Non.
Qui t'accompagnait?
Deux hommes, le maître et le valet.
Le nom du maître?
Je l'ignore.
Le nom du maître?
Je ne sais pas.
Tonnerre! S'écria Marcof en laissant enfin éclater la colère qu'il s'efforçait de contenir depuis si longtemps. Tonnerre, le temps presse, et l'on martyrise peut-être la jeune fille, tandis que les gendarmes vont revenir à Fouesnant traquer le père.
La seconde mèche.
Grâce! S'écria Carfor.
La seconde mèche.
Je parlerai.
Faites vite, mes gars, continua le marin.
Kennec et Jahoua obéirent. Carfor, incapable de se défendre, poussait des cris déchirants. La seconde mèche fut attachée et allumée. Le malheureux devenait fou de douleur, car les chairs se rongeaient au point de laisser l'os à nu.
« Le nom de cet homme ?» demanda Marcof.
« Grâce, pitié !»«
Son nom ?»«
Le chevalier de Tessy. »
« Pourquoi a-t-il enlevé Yvonne ?»«
Il l'aimait. » »«
Combien t'a-t-il payé, misérable infâme ?»
Carfor ne put répondre. Marcof renouvela sa question.
« 50 louis !» murmura le berger.
« Chien, tu ne mérites pas de pitié !»«
Qu'il meure !» s'écria Jahoua.
« Plus tard !» répondit Kennec. « Après Marcof, c'est à moi qu'il appartient !»
Carfor s'était évanoui de nouveau. Marcof délia une seconde fois les cordes et le berger revint à lui.
« Où est Yvonne ?» demanda le marin.
« Je l'ai laissé près d'Audierne. »«
Mais où l'a-t-on emmené ?»«
Je ne sais pas. »«
Réponds !»«
Je ne sais pas. »
Cette fois, Carfor prononça ces paroles avec un tel accent de vérité que Marcof vit bien qu'il ignorait en effet ce qu'était devenue la jeune fille.
« Partons !» s'écrièrent Jahoua et Kennec.
« Allez armer le canot !»
Les jeunes gens s'élancèrent. Marcof se rapprocha de Carfor et lui posa la pointe de son poignard sur la gorge.
« Le chevalier de Tessy a avec lui un compagnon ?» dit-il.
« Oui, » répondit Carfor.
« Le nom de ce compagnon ?»«
Le comte de Fougueray. »«
Ce sont des agents révolutionnaires ?»
Carfor leva sur le marin un œil où se peignait la stupéfaction.
« Réponds, ou je t'enfonce ce poignard dans la gorge !»
continua Marcof en faisant sentir au misérable la pointe de son arme.
« Tu as deviné.
Quels sont les autres agents avec toi et eux deux ?»«
Billot Varenne et Carrier. »«
Où sont-ils ?»«
À Brest. » »«
Les mots de passe et de reconnaissance, parle vite et ne te trompe pas. » »«
Patrie et Brutus. » »«
Sont-ils bons pour toute la Bretagne ?»«
Non. » »«
Pour la Cornouaille seulement ?»«
Oui. »
C'est bien. En ce moment, Kennec et Jahoua rentrèrent dans la grotte.
L'embarcation est à flot et la brise vient de terre, dit Kennec.
Embarquons alors.
Un moment, continua le jeune homme en s'avançant vers Carfor.
Que veux-tu faire?
M'assurer qu'il ne fuira pas.
Et Kennec, après avoir visité les liens qui retenaient Carfor, le bâillonna et, le chargeant sur ses épaules, il le porta vers une crevasse de la falaise. Puis, aidé par Jahoua, il y introduisit le corps du berger et combla l'entrée avec un quartier de roc. « Personne ne le découvrira là, et je le retrouverai, » murmura-t-il. Alors les trois hommes entrèrent dans le canot et poussèrent au large. Chapitre 17. Audierne. Ainsi que l'avait fait remarquer Keinec, la brise était bonne, car le vent venait de terre. Le canot, glissant rapidement sur la vague, doubla le promontoire de la baie et mit le cap sur Audierne, où Carfor avait dit avoir laissé Yvonne. Marcof espérait obtenir là de précieux renseignements. Mais le destin semblait avoir pris à tâche de contrarier et de retarder les recherches des trois hommes en venant au secours des misérables qu'ils poursuivaient. À peine l'embarcation prenait-elle la haute mer qu'une saute de vent vint entraver sa marche. Une forte brise de nord-ouest souffla tout à coup. Keinec et Jahoua usaient leurs forces en se couchant sur les avirons sans pouvoir gagner sur le vent debout qui se carabinait de plus en plus, suivant l'expression des matelots. Marcof était trop bon marin pour ne pas reconnaître qu'il deviendrait bientôt impossible de lutter contre la brise. Risquer de faire sombrer le canot eût été l'acte d'un fou. « Il faut retourner à Penmark, » dit-il. « Retourner ?» s'écrièrent ensemble les deux jeunes gens. « Et sans doute, que voulez-vous faire? Bientôt nous reculerons au lieu d'avancer. Virons de bord et retournons au Jean-Louis. La brise nous y portera promptement. Je ferai armer le grand canot, je prendrai avec nous 12 hommes, et alors nous gagnerons sur le vent. » Keinec interrogea le ciel et poussa un profond soupir. « Allons par terre !» dit Jahoua. « Nous arriverons 1 heure plus tard, » répondit Marcof. « Alors virons de bord. »« C'est ton avis, Keinec ?»« Oui. Armez les 2 avirons à tribord et attendons, car nous allons virer sous le vent, et la lame commence à être forte. » Ces ordres exécutés, l'embarcation, obéissant à l'impulsion du gouvernail, présenta d'abord le travers à la brise, puis tourna vivement sur elle-même. « Larguez la toile, mes gars, et laissons courir !» dit Marcof. 3 quarts d'heure ne s'étaient pas écoulés que le canot accostait le lougre. Le soleil s'élevait rapidement sur l'horizon. Marcof fit armer le grand canot, commanda les canotiers de service, et sans prendre le temps de descendre à terre, il fit pousser au large. La nouvelle embarcation était vaste et spacieuse, et pouvait aisément contenir 30 hommes. Tenant admirablement la mer, et enlevée par 12 avirons habilement maniés, elle luttait avec avantage contre le vent. Néanmoins, ce ne fut que vers l'approche de la nuit qu'elle parvint à gagner Audierne. L'entrée du canot dans le petit port vient donc correspondre au moment où Jocelyn venait de reconnaître le chevalier de Tessy et le comte de Fougeray, dans les habitants mystérieux de l'aile droite de l'abbaye de Plogastel. Au moment aussi où Hermosa plaçait devant Raphaël la carafe de Syracuse contenant le poison des Borgia. Marcof, Jahoua et Keinec se séparèrent pour aller aux renseignements. Partout ils interrogèrent, partout ils racontèrent brièvement la disparition d'Yvonne. Nulle part ils ne purent obtenir une seule parole qu'il ait mis sur la trace des ravisseurs. Les 2 jeunes gens étaient en proie au plus violent désespoir. Marcof seul conservait sa raison. « Fouillons le pays !» dit-il. « Mais il n'y a ni village ni château dans les environs !» répondit Jahoua. « Carfor nous aura trompés !»« Je ne le crois pas. »« L'abbaye de Plogastel est déserte !» fit observer Keinec. « Dirigeons-nous toujours vers l'abbaye ?» La forêt est voisine, et le comte de la Bourdonnais aura peut-être été plus heureux que nous. » Jahoua secoua la tête. « Je n'espère plus, » dit-il. « Ils auront gagné les îles anglaises, » ajouta Keinec. « Tonnerre !» s'écria Marcof avec colère. « Le désespoir est bon pour les faibles. Restez donc ici.
si vous ne voulez plus continuer les recherches, je les ferai seul. » Et, jetant sa carabine sur son épaule, le marin se dirigea vers la campagne. Keinec et Jahoua s'élancèrent à sa suite. Arrivés à la porte d'une ferme voisine, Marcof s'arrêta. « Tu dois avoir des amis dans ce pays, » dit-il à Jahoua. « Oui, » répondit le fermier. « Connais-tu le propriétaire de cette ferme ?»«
C'est Louis Kéric, mon cousin. » »«
Frappe alors et demande des chevaux. » En voyant Marcof ferme et résolu, ses deux compagnons sentirent renaître une lueur d'espoir. Jahoua obéit vivement. Le fermier auquel il s'adressait mit son écurie à la disposition de son cousin. Trois bidets vigoureux furent lestement sellés et bridés. Les trois hommes partirent au galop. 10 heures du soir sonnaient à l'église d'Audierne, à l'instant où ils s'élançaient dans la direction de l'abbaye. Marcof était en tête. Arrivés à la moitié environ du chemin qu'ils avaient à parcourir pour atteindre l'abbaye de Plogastel, les trois cavaliers, qui suivaient au galop la route bordée de genêts, entendirent un sifflement aigu retentir à peu de distance. Marcof étendit vivement la main. « Halte ! » dit-il en retenant son cheval. « Pourquoi nous arrêter ? » demanda Keinec. « Parce que nos amis pourraient nous prendre pour des ennemis et tirer sur nos chevaux. Attendez !» Le marin répondit par un sifflement semblable à celui qu'il avait entendu. Puis il l'accompagna du cri de la chouette. Alors il mit pied à terre. « Tiens, mon cheval, » dit-il à Jahoua, et il s'approcha des genêts. 2 ou 3 hommes apparurent de chaque côté de la route. « Fleur de chêne !» dit Marcof en reconnaissant l'un d'eux. « Capitaine !» répondit le paysan en saluant avec respect. « Avez-vous des prisonniers ?»«
Aucun encore !»«
Tonnerre !» s'écria le marin en laissant échapper un geste d'impatience furieuse. « Vous veillez, cependant.
Tous les genêts sont gardés.
Et les routes ?
Surveillées.
Où est monsieur le comte ?
Dans la forêt.
Bien, j'y vais. Donne le signal pour qu'on laisse continuer notre route, car nous n'avons pas le temps de nous arrêter. »
Fleur de chêne prit une petite corne de berger suspendue à son cou et en tira un son plaintif. Le même bruit fut répété 4 fois. Affaibli successivement par la distance.
« Vous pouvez partir, » dit le paysan.
« Et toi, veille attentivement. »
Marcof se remit en selle et les trois hommes continuèrent leur route en activant encore les allures de leurs chevaux. Bientôt, ils atteignirent l'endroit où se soudait au chemin qu'ils parcouraient l'embranchement de celui qui conduisait à Brest. « Continuons, » dit Jahoua, en voyant Marcof hésiter.
« Non, » répondit le marin, « peut-être se sont-ils réfugiés dans l'abbaye, et alors ils doivent garder l'entrée de la route. Prenons celle de Brest. Nous traverserons les genêts en mettant pied à terre et nous pénétrerons en escaladant les murs de clôture du jardin. De ce côté, on ne nous attendra pas. »
« Au galop !» fit Keinec en s'élançant sur la route indiquée.
« Bien évidemment, » le hasard protégeait Diego, car sans la réflexion de Marcof, les trois cavaliers, continuant droit devant eux, se fussent trouvés face à face avec le comte et Hermosa, qui quittaient en ce moment l'abbaye après le meurtre de Raphaël. Chapitre 18. Le mourant. Après avoir fourni une course rapide, accomplie dans le plus profond silence, Marcof, Keinec et Jahoua atteignirent les genêts. De l'autre côté, on apercevait les clochetons aigus, les tourelles gothiques et les toits aux corniches sculptées de l'abbaye de Plogastel, qui, plus sombres encore que le ciel noir, se détachaient au milieu des ténèbres. Marcof et ses deux compagnons entrèrent dans les genêts. Mettant tous trois pieds à terre, ils attachèrent solidement les brides de leur monture à un bouquet de vieux saules qui se dressait à peu de distance de la route. Puis ils s'enfoncèrent dans la direction de l'abbaye, se frayant un chemin au milieu des hautes plantes dont les rameaux anguleux se rejoignaient en arceaux au-dessus de leur tête. Bientôt, ils atteignirent le mur du jardin. Ce mur, très élevé, eût rendu l'escalade assez difficile, si le temps et la négligence des employés de la communauté n'eussent laissé à la pluie le soin d'établir de petites brèches praticables pour des gens même moins agiles que les deux marins. Marcof et Keinec furent bientôt sur l'arête du mur et aidèrent Jahoua à les rejoindre. Tous trois sautèrent ensemble dans le jardin, parfaitement désert, à l'extrémité duquel se dressait la façade noire du bâtiment. Ils traversèrent le petit parc dans toute sa longueur et examinèrent attentivement l'abbaye. Aucune lumière révélatrice ne brillait aux fenêtres de ce côté.
« L'abbaye est déserte !» murmura Jahoua.
« Allons dans la cour !» répondit Marcof. Ils pénétrèrent dans le rez-de-chaussée du couvent à l'aide d'une croisée entr'ouverte. Puis, traversant en silence les cellules et le corridor, ils se trouvèrent au pied de l'escalier.
« Il y a de la lumière au premier étage !» fit Keinec à voix basse, en désignant de la main une faible lueur qui rayonnait doucement au-dessus de sa tête.
« Montons !» répondit Marcof.
« Je garde la porte !» ajouta Jahoua. « Vous m'appellerez si besoin est. »
Marcof et Keinec gravirent les marches de pierre de l'escalier. Arrivés sur le palier du premier étage, ils s'arrêtèrent, indécis et hésitants. Un long corridor se présentait à eux. À droite, une porte ouverte donnait accès dans une pièce éclairée. C'était la chambre d'Hermosa, que, dans leur précipitation, les deux misérables n'avaient pas pris soin de refermer. Marcof s'avança vivement.
« Personne !» dit-il.
« Personne ?» répéta Keinec, étonné. Ils ressortirent. À quelques pas plus loin, dans le corridor, se présenta une seconde porte, fermée cette fois, mais sous laquelle passait une traînée de lumière. Marcof et Keinec écoutèrent. Ils entendirent un soupir, une sorte de plainte douloureuse ressemblant au râle d'un agonisant.
« Cette chambre est habitée !» murmura le jeune homme.
« Entrons !» répondit Marcof sans hésitation. La porte résista.
« Elle est fermée en dedans !» reprit Keinec.
« Mais on dirait entendre les plaintes d'un mourant !»
« Écoute !»«
C'est vrai. »«
Eh bien, enfonçons la porte. »«
Frappe !» Keinec, d'un violent coup de hache, fit sauter la serrure. La porte s'ouvrit, mais ils demeurèrent tous deux immobiles sur le seuil. Ils venaient d'apercevoir un horrible spectacle. Cette cellule était celle dans laquelle expirait le chevalier de Tessie. Diego, on s'en souvient peut-être, avait renversé des candélabres. Raphaël, seul et se sentant mourir, s'était traîné sur les dalles et était parvenu à allumer une bougie. Mais sa main vacillante n'avait pu achever son œuvre. La bougie enflammée s'était renversée sur la table et avait communiqué le feu à la nappe. La flamme, brûlant lentement, avait gagné les draperies des fenêtres. Raphaël, en proie aux douleurs que lui causait le poison, se sentait étouffé par les tourbillons de fumée qui emplissaient la chambre. Dans les convulsions de son agonie, il avait renversé la table et le feu avait atteint ses vêtements. Incapable de tenter un effort pour se relever, il subissait une torture épouvantable. Ses jambes étaient couvertes d'horribles brûlures. Et au moment où Marcof et Keinec pénétrèrent dans la pièce, sur le plancher de laquelle il gisait, le feu gagnait son habit. Marcof s'élança, brisa la fenêtre, arracha les rideaux à demi consumés et les jeta au dehors. Keinec, pendant ce temps, avait saisi un seau d'argent dans lequel Jasmin avait fait frapper du champagne et en versé le contenu sur Raphaël. Puis, aidé par le marin, il transporta le mourant dans la chambre d'Hermosa. « Cet homme se meurt et est incapable de nous donner aucun renseignement, » dit Marcof après avoir déposé Raphaël sur un divan. « Il y a eu un crime commis ici. Tout nous porte à le croire. Fouillons l'abbaye, Keinec, et peut-être découvrirons-nous ce que nous cherchons. » Keinec, pour toute réponse, saisit un candélabre chargé de bougies et s'élança au dehors. Marcof redescendit près de Jahoua. Tous deux fermèrent soigneusement la porte d'entrée, en retirèrent la clé et, remontant au premier étage, ils se séparèrent pour parcourir chacun d'un côté différent le dédale des corridors et des cellules. Mais ce fut en vain qu'ils fouillèrent le couvent, depuis le premier étage jusqu'au comble. Ils ne découvrirent rien. Jahoua, qui était redescendu et pénétré successivement dans les cellules, poussa tout à coup un cri terrible. Keinec et Marcof accoururent. Ils trouvèrent le fermier, à genoux, dans la chambre de l'abbesse, et tenant entre ses mains une petite croix d'or.
« Qu'y a-t-il ? » s'écria Marcof.
« Cette croix ! » répondit Jahoua.
« Eh bien, c'est celle d'Yvonne ! » !»«
En es-tu certain ? » fit Keinec en bondissant.
« Oui, c'est sur cette croix qu'Yvonne priait à bord du lougre pendant la tempête. Elle la portait toujours à son cou. »«
Alors, on l'avait conduite ici ? » dit Marcof.
« Qu'est-elle devenue ? »
« L'abbaye est déserte.
On l'aura enlevée de nouveau.
Mon Dieu, où l'aura-t-on conduite ?»«
L'homme que nous avons trouvé nous le dira !»
s'écria Keinec. Et tous trois se précipitèrent vers la chambre d'Hermosa. Raphaël n'avait pas fait un seul mouvement. Seulement le râle était devenu plus lourd, et bientôt même il cessa tout à fait.
« Il est mort !» fit Jahoua.
Marcof lui posa la main sur le cœur.
« Pas encore, » répondit-il,
« mais il n'en vaut guère mieux. »«
Comment le faire parler ? » ?»«
Fouille-le, Keinec, peut-être trouverons-nous quelque indice. » Keinec arracha l'habit et la veste qui couvraient Raphaël. Il plongea ses mains frémissantes dans les poches et en retira un papier.
« Donne !» s'écria Marcof en le lui arrachant.
C'était une lettre. Le marin l'ouvrit rapidement.
« L'écriture de Carfor, » fit-il.
« Lis !» dit Keinec.
« Adressé au chevalier de Tessy, » continua Marcof. « Celui qui a enlevé Yvonne !»
s'écrièrent les deux jeunes gens.
« Cet homme est le chevalier de Tessy, alors ?»«
Je tiens donc l'un de ces misérables !» murmura Marcof avec une joie féroce. Tous trois d'un même mouvement soulevèrent Raphaël.
« Il faut lui donner la force de parler, » s'écria Jahoua.
« Que nous sachions ce qu'il a fait d'Yvonne et ce qui s'est passé ici. Dussions-nous pour cela hâter sa mort. »
Raphaël fit un mouvement. Il porta la main à sa poitrine et à sa gorge et balbutia quelques mots qu'il fut impossible de comprendre.
« Il veut boire, » dit Marcof en interprétant le geste du mourant. Jahoua descendit et remonta bientôt, apportant un vase plein d'eau fraîche qu'il approcha de la bouche du chevalier. Raphaël y trempa ses lèvres et parut éprouver un peu de bien-être. Keinec le soutenait. Les lumières des bougies frappaient en plein sur la figure décomposée du misérable. Marcof porta la main à son front.
« C'est étrange » murmura-t-il.
« Qu'est-ce donc ? » demanda Keinec. Marcof ne lui répondit pas. Mais prenant un flambeau, il l'approcha du visage de Raphaël pour mieux en examiner les traits.
« C'est étrange !» répéta-t-il. « Il me semble reconnaître cet homme. Et j'ai beau fouiller dans mes souvenirs, je ne puis me rappeler positivement à quelle époque ni dans quelles circonstances je l'ai rencontré.
« N'est-ce donc pas là le chevalier de Tessy ? » s'écria Jahoua.
« Je l'ignore, » répondit Marcof. Et cependant, cette lettre porte bien ce nom et semble lui appartenir.
« Je crois qu'il a fait un mouvement, » dit Keinec.
« Alors nous allons savoir qui il est. »
Et tous trois se rapprochèrent du moribond. Marcof de plus en plus singulièrement préoccupé, Keinec et Jahoua poussés par l'unique désir d'apprendre de cet homme ce qu'était devenue la jeune fille qu'ils aimaient tous deux.